Pouce vert avec Vincent Potier.
Bien le bonjour. En cette nouvelle année que je vous souhaite excellente, ça n'est pas une personne, mais deux personnes, Odile et Jean-Loup Bernard, que je vous propose de rencontrer dans leur entreprise Solibio à Solignac. C'est parti. Bonjour Jean-Loup et Odile. On est à Solignac dans votre entreprise Solibio. Est-ce que vous voulez vous présenter et nous présenter ce que vous faites ici? Qui prend la parole?
Odile, toujours honneur aux femmes.
Donc Odile Bernard, épouse donc de Jean-Loup, co-gérante de l'entreprise Solibio, créée en septembre 2001, il y a 18 ans, dans un optique de lutter contre la pollution de l'environnement à l'époque. Et aujourd'hui, notre objectif a beaucoup évolué puisque nous souhaitons et nous travaillons à l'élaboration de produits qui préservent la santé des personnes, des hommes et des femmes, ainsi que la santé de leur environnement. Donc notre panel d'objectifs a augmenté.
Et Jean-Loup Bernard, Odile n'a pas dit, est ingénieur chimiste et moi aussi. On s'est connus à l'école de chimie de la Cato à Paris. On a créé l'entreprise effectivement pour fabriquer des produits qui soient propres. Tout ce que les chimistes peuvent faire, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut être très concret, c'est des produits d'hygiène et d'entretien.
Donc on fait des produits d'hygiène qui ne sont pas propres.
Ah oui.
C'est un paradoxe.
Ben voilà, oui. C'est un peu triste, mais majoritairement, en sortant d'école de chimie, on nous apprend qu'à faire des produits d'hygiène pas propres, il faut dire les choses comme elles sont.
Alors quand on dit pas propres, ce sont des produits d'hygiène qui ne sont pas forcément biodégradables.
Oui.
Donc il laisse un impact sur l'environnement et qui laisse un impact sur la santé des hommes que l'on découvre au fur et à mesure à force d'échanger avec les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, toutes les professions médicales ou paramédicales. On s'aperçoit que l'impact est quand même assez colossal. Autant s'attaquer à la source, donc à ces produits eux-mêmes.
C'est ça, donc pas propre dans le fait qu'ils ne sont pas biodégradables, donc qu'ils ne disparaissent pas et qu'ils restent comme ça, mais pas propre, c'est aussi en amont, d'après ce que...
Alors c'est aussi bien en aval qu'en amont. En aval, c'est qu'ils ne sont pas biodégradables, et puis qu'ils induisent des pathologies dont on ne soupçonne pas encore la totalité, mais qui bousculent un peu la santé des hommes, ça c'est évident. Quoi de plus naturel pour des chimistes qui sont quand même à l'origine de tous ces produits de travailler en amont, en concevant différemment et en concevant des produits qui soient non perturbants pour l'organisme et non perturbants pour l'environnement.
J'avais rencontré un maraîcher qui disait que lui, sa façon de faire du maraîchage, c'était plutôt que de faire de l'agriculture pour résoudre des problèmes qui pourraient advenir aux plantes, qui savent depuis des millénaires ce qu'il faut faire, c'était de prendre les devants et d'imiter la nature pour que les choses se passent bien sans que ça crée des problèmes. C'est un peu comme ça que vous voyez les choses?
Alors là, oui. On va plus loin même. La première chose, c'est ce qu'on appelait nous à l'époque l'éco-conception. Ça parle plus beaucoup aujourd'hui malheureusement. C'est peut-être plus la notion de cycle de vie. Quand on veut utiliser un produit ou de la nourriture, on doit se poser la question, quel est le cycle de vie? À l'échelle de combien de mois, d'années ou de siècles, ce produit va être renouvelé? Et donc, ça, c'est juste le cycle de vie, la première étape.
Oui, oui.
Et après, on doit avoir en parallèle, ça, pour nous, c'est la grande révolution depuis 5 ans, puisqu'on sait enfin mettre des mots dessus, c'est les résidus de ces produits, les traces qu'on peut avoir, tout ce qui peut être artificiel, quand nous, on a imaginé. Quel est l'impact sur notre patrimoine génétique?
Du genre des composants organiques volatiles ou des...
Non, même pas, parce qu'on peut avoir... L'alcool, par exemple, est un composant organique volatile qui ne nous fait pas trop de mal, ça va. Il y en a beaucoup dans la nature.
Sans abus.
Voilà, l'acide acétique, le vinaigre, est omniprésent dans la nature. Pourtant, c'est un produit très volatile.
Mm-hmm.
C'est ce qu'on appelle beaucoup les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire,
est-ce
que le produit que je fais, quel message il laisse, en fait? C'est plus ça, il faut donner. Quel est le message qu'il va laisser dans notre environnement que notre corps ne va pas savoir gérer? Et ça, c'est très, très nouveau, puisqu'on n'a pas du tout été éduqué pour ça, ni formé pour ça. On le découvre au fur et à mesure.
Et donc, ça fait quelques années que vous avez commencé cette aventure avec cette entreprise. J'imagine donc qu'il y a eu des périodes joyeuses, comme voilà, l'agrandissement de l'entreprise depuis son début, des trouvailles comme ça, mais des périodes difficiles aussi. Qu'est-ce qui vous permet de tenir, de garder ce cap de...
Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on est peut-être un peu passionné par notre métier, quoi. C'est quand même sympa de concevoir, de mettre au point et finalement de voir que les produits que l'on propose sont utilisés par d'autres personnes et que les gens sont contents. Donc déjà, je pense que c'est quand même très, très réconfortant, très, très agréable. Après, qu'est-ce qui nous pousse ?
Faut avoir la foi, hein. Faut croire en ce qu'on fait, que ça ait du sens. Et après, ça va tout seul. On n'a jamais douté, hein, sur l'entreprise. On doute de nous-mêmes, on a des moments de faiblesse, comme tout le monde. Mm-hmm. Mais j'ai jamais vu de... On a des moments de colère, hein, parce qu'on est fatigué, et puis ça arrive à tout le monde. Mm-hmm. Mais on y croit, hein. On y croit complètement, donc on sait qu'il faut y aller. Du coup, on arrête de s'écouter et on rebondit, quelles que soient les difficultés. C'est évident qu'il y a des très grosses difficultés pour l'entreprise à tout moment qui peuvent arriver. On sait très bien que le jour où on arrête de ramer, le bateau il coule, hein, c'est immédiat dans notre pays. Enfin, pas que dans notre pays, dans tous les pays du monde. Donc il faut garder le cap. Pour le...
Et le fait, par exemple, de donner une dimension d'entreprise qui crée des emplois et tout ça, plutôt que seulement faire votre recherche et vendre des licences, il y a des choses qui vous ont éclairé sur ce type de choix ?
Pour avoir une famille un peu atypique, avec des enfants un peu atypiques, on sait que quelquefois dans des entreprises on peut déranger, un petit peu trop assertif, et que c'est pas forcément facile à vivre. Et c'est vrai qu'en créant cette boîte, on a souhaité que les personnes qui y rentraient puissent au moins s'y épanouir et faire... y apporter chacun sa pierre. Je ne dis pas qu'on l'écoute à tous les jours, à toutes les heures, à tous les moments, mais notre souhait est que les gens qui y soient, ils soient bien.
Donc dans votre aventure, il y a une dimension liée à votre métier de chimiste, hein, d'élaborer des choses, mais liée aussi à votre côté humaine. Entrepreneur, voilà, humaine.
Il y a un fond, c'est la ligne de conduite, hein, qu'on met, qu'on retrouve beaucoup dans la doctrine sociale de l'Église, hein, qui est passionnante pour ça. Il faut être bienveillant. J'aime bien ce terme. Il faut être bienveillant vis-à-vis de nos clients, donc c'est-à-dire dans ce qu'on va fabriquer. Il ne faut pas que les produits fassent du mal. Vis-à-vis de nos fournisseurs, il faut les respecter. Et dans l'autre sens, s'ils ne nous respectent pas, ben, on va trouver d'autres fournisseurs. La bienveillance va être dans les deux sens. On doit être bienveillant avec nos salariés. Ça ne veut pas dire être bisounours et tout gentil. Hein. C'est quand les choses ne sont pas, il faut savoir le dire. Il faut savoir trancher quand il faut. Ça va loin, quoi.
Oui.
Mais je trouve que la ligne de conduite est très bonne. Parce que du coup, le message est clair pour l'ensemble de nos partenaires, aussi bien côté salarié que client, fournisseur, élu, enfin tous les gens qu'on peut voir dans le cadre de l'entreprise. Et du coup, l'entreprise devient, pour moi, plus facile à diriger. Plus facile à développer surtout que diriger. On l'anime en fait, on ne la dirige pas, on l'anime.
Il y a quelques années, le pape François a sorti l'encyclique Laudato Si. Je crois que c'est un texte que vous avez lu, travaillé peut-être, non ?
Méditer.
Il était temps. Je dis toujours, il était temps. Parce que le nombre de fois où. C'est vrai qu'on n'en parle pas depuis que je suis tout jeune. Hein. De voir un peu une fin de nous recevoir autour de mes amis quand on parle d'environnement, ça, enfin, j'ai peut-être jamais montré, mais ça a toujours été très dur pour moi. Et je ne comprends pas comment on peut être affiché, être chrétien, et puis avoir un tel mépris pour le gaspillage de nos ressources, c'est pas acceptable. Et c'est vrai que ça a toujours été difficile pour moi, ça m'a toujours révolté, ça me révolte toujours. Hein.
Le pape, dans l'encyclique Laudato Si, fait le lien donc, entre la question de l'environnement, la terre qui crie, hein, c'est dans les premiers chapitres, et la question sociale aussi, hein, la terre qui est parmi les pauvres. Donc c'est des liens que vous faites aussi.
Oui, beaucoup. Alors en interne, à la hauteur de Solibio, oui, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On sort d'un déjeuner là, en groupe et... on parlait de Noël, justement, la signification de Noël les uns pour les autres, sans forcément pour autant rentrer dans dans la religion, parce que chacun... mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a, on aborde en interne.
On veut les... Là, sur Noël, par exemple, il faut les réconcilier avec nos traditions qui sont bonnes, qui ne sont pas forcément religieuses. Le sapin de Noël n'est pas une tradition religieuse. Mmh. Mais on découvre que, ben, je crois que 2/3 des salariés ici n'ont pas de sapin de Noël. Donc Noël n'est qu'un jour parmi tant d'autres, et c'est dommage. Il faut les réconcilier avec le rythme des saisons. Mmh. On les fait vivre au rythme des saisons. Les ateliers sont plus froids en hiver, plus chauds en été, un peu plus. On fait attention, on ferme les portes, on les ouvre quand il faut. Enfin, on gaspille pas. C'est vrai que j'insiste énormément dessus. On a acheté là un petit peu de terrain, là 2 hectares dans le village également, pour cultiver avec les salariés, qu'on redécouvre ce qui se passe dans la terre, pour redonner vie à la terre. Je vois l'impact que ça a sur ceux qui sont issus des milieux les plus modestes, hein, qui puissent toucher des plantes, voir ce que c'est que du paillage, un peu de permaculture, comment se comportent les animaux dessus, c'est une chance énorme pour eux. Et du coup, ça leur donne beaucoup plus de motivation dans leur métier derrière, parce qu'ils ont tout le cycle dans la tête.
Oui.
Ce qui va se passer dans la terre, des produits ce qu'on va récolter, des produits qu'on va fabriquer, des produits qu'on va vendre, et comment ils vont revenir à la terre après.
C'est vrai qu'on parle beaucoup avec eux du respect, mais le respect va au-delà de simplement ce qu'il y a dans leur propre famille. On parle du respect de la terre, on parle du respect des ressources, du respect de l'autre. Comme toute personne rassemblant du monde, il y a toujours des histoires à nous d'en tirer le meilleur de chacun.
Oui. Vous évoquiez donc la difficulté il y a quelque temps là, de cette parole écologique, la difficulté à ce qu'elle soit reçue dans les milieux chrétiens. Vous pensez que ça a changé un peu avec l'encyclique ?
Ça commence, c'est loin d'être acquis, hein. Et c'est pas très grave en soi. Ce qui est important, c'est que ça avance, hein. Mais c'est difficile parce qu'en fait, est-ce que moi je suis prêt à changer mes habitudes? C'est la question de fond. Est-ce que je suis prêt à faire entre deux petits gestes, un qui fait du mal et celui qui fait du bien? Parce que c'est ça le fond. Est-ce que je vais faire celui qui fait du bien? Ou est-ce que je vais dire, bon, c'est pas grave, celui-là, c'est un peu sale, un peu polluant, ça spécule un peu, mais bon, c'est pas grave, je m'en occuperai la prochaine fois. Ça, c'est mal, ça, c'est pas bien. Donc, on a en permanence tous, hein, on a tous la possibilité tout au long de la journée de faire des petits gestes qui font avancer. Je pense que c'est vraiment le rôle du chrétien, c'est pas d'avoir des grandes théories, des grandes phrases, hein. C'est vraiment, oui, d'avoir des petits gestes.
Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent là actuellement, quel type de geste vous pensez qu'ils pourraient changer, même de façon très modeste, un peu l'implication des humains sur la planète? On sait aujourd'hui que c'est une grande question, et je crois de plus en plus une question partagée par les Français. Donc quel rôle les chrétiens pourraient avoir?
On est en hiver, le chauffage, c'est basique, mais déjà, pourquoi pas s'acheter un bon pull? En plus, on va économiser, soit dit entre nous. On s'achète un bon pull, on diminue de 2-3 degrés le chauffage de la maison.
On n'est pas obligé de chauffer notre maison à 22. À 18 degrés, on vit très bien, et on l'a divisé par 2 la facture. On a moins gaspillé.
Ça, c'est un premier geste, le jardin au printemps. On peut mettre du pesticide pour éviter que les herbes poussent dans les allées. Ça, c'est un confort. Bah, on peut peut-être mettre de l'huile de coude, arracher l'herbe de soi-même. Ou
au lieu de mettre du gravier dans ses allées, on met du gazon. Et puis, il n'y a plus besoin de Roundup. C'est des choses idiotes. On se dit, mais pourquoi je vais au gravier, au fait? Et voilà. Pourquoi en France, on doit être un des derniers pays au monde où on laisse des allées dans les cimetières qu'on doit désherber? Alors que tout le monde met des allées en herbe, tout simplement.
Faire attention à l'eau. Il existe des produits pour, au milieu d'un potager, on peut faire de la réserve d'eau. Un ouillasse, par exemple, où c'est enterré au milieu des tomates, des haricots verts. C'est quelque chose qu'on remplit régulièrement, mais on n'est pas obligé d'arroser à grand foison d'eau qui va se perdre, alors que c'est quand même, dans certains pays, c'est quand même une denrée qui est plus que rare.
Et on l'a vu cet été, même sous nos latitudes.
Même chez nous, oui, tout à fait.
Oui, mais j'ai vu cet été des gestes magnifiques, hein, de petits jardins ouvriers qui étaient passés en permaculture, donc pas une goutte d'eau rajoutée, avec des paillages de 40 cm et des tomates magnifiques au milieu, alors que tout le reste était calciné autour, quoi.
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est même pas cette jeune génération qui arrive, qui sont très, très sensibilisés. C'est plutôt la génération au-dessus de nous, ou même la nôtre, où on aime bien son confort, sauf que son confort est quelquefois au détriment de ses enfants ou de ses petits-enfants, puisque vous prenez un tout petit qui joue à 4 pattes dans le jardin et qui se roule dans l'herbe. S'il y a eu du pesticide avant, ça va pas être que du bon pour lui. Et on a mis du pesticide parce que pour un petit confort, je dirais, de regard, bah peut-être qu'on pourrait peut-être avant de se mettre du pesticide, penser au petit bonhomme ou la petite bonne femme qui va jouer dans le jardin.
Eh bien, j'espère que votre appel sera entendu par les auditeurs et qu'il y a des attitudes qui changeront. Je vous remercie de m'avoir reçu. À très bientôt.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci Odile et Jean-Loup de m'avoir reçu. L'entreprise Solibio est bien insérée dans le village de Solignac et le souci écologique de leurs fondateurs, Odile et Jean-Loup, s'inscrit bien dans les orientations nécessaires pour l'avenir de notre planète en cette décennie qui commence et qui risque de rencontrer de grosses difficultés écologiques. Nous en reparlerons. Vous pouvez retrouver l'interview de Jean-Loup et Odile sur le site de l'association à www.imagine-asso.fr. À très bientôt pour de nouvelles rencontres.